Le baptême, juste avant de laisser les témoins, les deux témoins, Aurélie et Élodie, donner leur propre témoignage. Quelle est l'origine et le symbole du baptême? Attends, je te le dis quand tu démarres, dans quelques secondes. Étymologiquement, le terme baptême vient du grec baptisien, baptisein, qui signifie plonger, immerger. Le baptême a fait l'objet d'une pratique intense au temps de Jésus, donc au 1er siècle. Et il était déjà pratiqué dans certains courants du judaïsme comme moyen de purification rituelle, donc pour intégrer de nouveaux membres dans le judaïsme. Et plus tard, c'est Jean-Baptiste, que vous verrez sur la vidéo, qui l'a administré en signe de conversion. Le terme utilisé, c'est métanoïa, c'est-à-dire changement de mentalité avec regret du passé et détermination à servir Dieu d'une manière nouvelle dans l'avenir. C'est ainsi qu'il a refusé le baptême aux pharisiens, qui venaient pour d'autres motifs qu'un changement de cœur. Ils venaient pour bien se faire voir, et Jean-Baptiste l'a bien remarqué, et il a refusé de les baptiser. Mais après avoir baptisé des personnes, il a baptisé Jésus, et cette vidéo que je trouve très bien, qui va illustrer la suite, va vous expliquer un peu le baptême de Jésus et comment ça s'est passé, en tout cas sur l'idée d'un film.
Je te baptise, l'autorité du Dieu Tout-Puissant, en témoignage que tu as conclu l'alliance de servir.
C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi.
Laisse faire maintenant. Car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste.
Je te baptise, ayant autorité du Dieu Tout-Puissant, en témoignage que tu as conclu l'alliance de le servir.
Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me complais.
Depuis l'origine, la pratique du baptême, qui symbolise la vie en Jésus-Christ, est une des caractéristiques même principales de la chrétienté, du christianisme, des églises chrétiennes. C'est le seul sacrement chez les protestants que nous sommes, protestants évangéliques, avec la scène qui rappelle l'alliance, qui d'ailleurs renvoie au baptême où l'alliance a été conclue par le baptisé. Comme on le verra tout à l'heure, le baptisé conclut cette alliance qui a été ouverte par le Seigneur. La mission que nous avons reçue au travers des disciples s'intitule de cette manière, c'est Jésus qui le donne à ses disciples. Après la résurrection, les 11 disciples partent pour la Galilée. Il n'y avait plus que 11. Ils arrivèrent sur la montagne où Jésus leur dit d'aller. Et en voyant Jésus, ils l'adorent, mais certains hésitent à croire, ils doutent. Jésus s'approche et leur dit, « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le baptême de Jésus, dans toutes les églises chrétiennes, est célébré avec l'eau. Au nom, c'est-à-dire dans l'autorité, le nom c'est l'autorité, au nom du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Le symbole de l'eau a plusieurs significations. Il est source de vie, L'eau purifie, désaltère, rafraîchit, mais elle peut aussi submerger et faire mourir. La qualité n'est pas très bonne, mais c'est normal, c'est l'image hein, que j'ai téléchargée qui est pas bonne. On va passer à une autre après. Cette ambivalence, ou ce paradoxe, si vous voulez, hein, de choses contraires en même temps, se trouve dans la symbolique du baptême, qui est mourir. Dans le baptême, il faut mourir. Mourir à tout ce qui n'est pas porteur de vie, à tout ce qui éloigne des autres et de Dieu, pour renaître à une vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est là le paradoxe du discipulat que Jésus a donné à ses disciples dans Matthieu 16, hein, qui est trouver et perdre sa vie. Trouver la vie et perdre la vie, dans Matthieu 16. Le sacrement du baptême est signe d'une nouvelle naissance avec le Christ et en Christ, et vous l'entendrez dans les témoignages. Le nouvel Adam, qui est Jésus, c'est pour ça qu'il était homme, était Dieu et homme, le nouvel Adam, la nouvelle race humaine, sans péché, la nouvelle humanité, qui elle est réconciliée avec Dieu, alors que l'ancienne, elle est hostile à Dieu. Deuxième chose, le sens et la signification du baptême. Dieu promet sa présence, source de vie, de réconfort et de consolation dans les moments lumineux comme dans des moments sombres de notre vie. Il veut nous accompagner jusque dans l'éternité qui commence dès la nouvelle naissance. L'éternité ne commence pas à la mort. Hein. Le baptême est signe visible de l'amour de Dieu qui est offert sans condition, comme l'a rappelé Laurence tout à l'heure. L'amour de sa présence et de son engagement dans notre vie tout entière. Le baptême est également signe d'appartenance dans le cadre d'une alliance, d'une personne vis-à-vis de Jésus-Christ et de son accueil aussi dans l'Église, l'Église qui est universelle, il n'y a qu'une seule Église. Vous savez, dénomination, c'est humain, mais l'Église universelle, elle est une et indivisible, elle est le corps de Christ. L'appartenance à l'Église locale est signifiée par une autre cérémonie qui n'est pas celle-là, qui est l'adhésion aux exigences morales et spirituelles de l'association des frères et sœurs et l'acceptation de sa vision et de son organisation en vue de la promouvoir. Le baptême est célébré une seule fois et reconnu par une grande partie des églises chrétiennes, y compris bien sûr l'église orthodoxe. Lorsque le baptême a lieu en âge de raison, le baptisé assume lui-même l'engagement de foi lié au baptême. Il témoignera de sa foi, comme le font Aurélie et Élodie. Et ce type de baptême a été pratiqué jusqu'au VIe siècle, lorsque le christianisme est devenu religion d'État, c'est-à-dire une église de multitude où tout le monde est entré à cause de l'empereur ou du roi qui avait adopté la religion chrétienne. Et on a commencé alors à baptiser les enfants. Là, vous voyez un baptistère voyez, qui est presque plus grand que la cathédrale. En tout cas, il est très, très grand. À Grenoble, ils en ont découvert un quand ils ont fait les travaux du tramway et ils sont tombés sur un grand, grand baptistère. Vous voyez, on a les fouilles maintenant et le tramway fait le tour pour qu'on puisse visiter l'ancien baptistère. Et il était devant l'église parce qu'en fait, il fallait d'abord être baptisé pour entrer dans l'église. Et le symbole était clair jusqu'au VIe siècle. Ensuite, après, on a baptisé les enfants parce qu'il y avait trop de gens à baptiser, parce que toute la multitude est entrée. Donc, on a trouvé ce principe plus facile que de les plonger dans l'eau, dans le grand baptistère. Et lors du baptême du petit enfant, dans l'église catholique entre autres, mais aussi luthérienne et réformée, ce sont les parents et l'église qui s'engagent à l'élever dans la foi chrétienne, puisque l'enfant n'a pas de capacité, de raison pour exercer la foi. L'enfant ensuite est appelé à découvrir pas à pas la foi chrétienne et à prendre part à la vie de l'église. Il s'agit de lui permettre de choisir progressivement la place qu'il souhaite se faire à Dieu dans sa vie. Plus tard, s'il le désire, il pourra manifester sa réponse à l'amour de Dieu en confirmant son baptême. C'est pourquoi c'est la pratique de la confirmation, aussi bien dans l'Église catholique, luthérienne et réformée. Mais l'Église évangélique que nous sommes, qui est aussi protestante parce que on est totalement fondé sur la réforme protestante, mais l'Église évangélique comprend ce baptême d'enfant par aspersion comme une présentation d'enfant. Une présentation d'enfant, à l'instar de Jésus qui a été présenté au temple le huitième jour. Et la confirmation, dont on a parlé tout à l'heure, hein, que ce soit catholique, luthérien, réformé, pour nous c'est le baptême, à l'instar de Jésus, qui a pris le baptême à 30 ans. Alors il y a plusieurs doctrines de baptême. Le baptême chrétien est pratiqué en Christ, en Christ. Le baptême de Jean-Baptiste n'était pas en Christ, puisque Christ n'avait pas encore accompli son œuvre. Mais c'était un baptême quand même. Mais nous le pratiquons en Christ, c'est-à-dire dans la mort et la résurrection de Jésus. Les apôtres ont dû faire face à cette difficulté au premier siècle avec des personnes qui n'avaient pas compris ce baptême, puisqu'ils étaient baptisés selon le rite de Jean-Baptiste. Et c'est par ce baptême qu'on devient enfant de Dieu. Je vous lis Galates 3, verset 26. « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, un peu comme un vêtement. » Dans Colossiens, chapitre 2, verset 11, « C'est en Christ que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, par le dépouillement du corps de la chair, par la circoncision, c'est-à-dire coupée, la circoncision de Christ, ayant été enseveli avec lui dans le baptême, dans lequel vous êtes aussi ressuscité par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Et l'autorité du baptême, il procède du Père, de l'Esprit, et devient efficace en Christ. C'est pour ça nous baptisons, et je vais baptiser tout à l'heure les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dire le Dieu trinitaire de la Bible. Alors, juste un petit mot sur les dangers que vous allez rencontrer, les baptisés d'aujourd'hui, mais aussi tous ceux qui sont déjà baptisés. Juste un mot sur l'actualité en rapport avec ce baptême qui sera de plus en plus controversé, car le monde pousse à aller vers un syncrétisme des religions, un syncrétisme où toutes les religions se valent. Pourquoi le christianisme serait au-dessus des autres religions? Et à propos des attaques islamistes en France actuellement contre la chrétienté, nous sommes devant un vrai défi. Le défi d'être enraciné dans la foi, celle du christianisme, pour pouvoir tenir ferme dans ces temps difficiles, car notre foi va être mise à l'épreuve. Il faut donc bien connaître la parole de Dieu et se rappeler les éléments de la doctrine, les plus importants de notre foi. Or, ces trois doctrines, les plus importantes du christianisme, sont rejetées par les musulmans. Un, la divinité de Jésus-Christ. Deux, la Trinité divine, Père, Fils, Saint-Esprit, et la mort expiatoire de Jésus, homme, et Dieu, suivi de sa résurrection. Ces trois doctrines sont présentes dans le baptême. Or, elles sont, pour eux, pour les musulmans, fausses et blasphématoires, et doivent être combattues avec vigueur. Il est notamment déclaré dans le Coran que les juifs disent, voilà, le scribe Esdras est fils d'Allah, les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche, ils imitent le dire des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Jésus n'est pas Dieu, il n'est qu'un prophète, le serviteur d'Allah. Vous êtes des idolâtres, car vous avez divinisé un homme fait de chair et de sang. L'islam, entre autres, remet en question la foi que les chrétiens tiennent pour vraie depuis deux millénaires au sujet de Jésus et de sa divinité. Et face à ces questions, à ces attaques courantes, ces affirmations courantes, les chrétiens sont appelés à être toujours prêts à se défendre avec douceur et respect auprès de tous ceux qui leur demandent raison de l'espérance qui est en eux. Pour les chrétiens, ces trois articles de foi sont garants du salut de l'âme, de celui qui s'y attache, et de la prédiction musulmane ne peut amener l'homme à la véritable connaissance de Dieu ni au salut, parce que dans Jean 14, Jésus dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le Coran conserve certes certains attributs et œuvres glorieuses de Jésus, mais le Messie, mais ce n'est que pour mieux rejeter l'essentiel le concernant. Aucun musulman ne peut connaître la foi chrétienne en lisant le Coran, sauf par révélation. Nous avons rencontré un pasteur ivoirien qui a été amené par Gilles Le Sieur, qui l'a trouvé, mais c'est une révélation pure et c'est possible. Le livre, le Coran, déforme le message du Christ. Et si nous voulons être témoins de Christ, il nous faut être enracinés dans ces trois doctrines. Je termine. Les chrétiens évangéliques croient à l'inhérence. L'inhérence, c'est-à-dire la Bible est sans erreur dans les textes originaux. Concernant le texte original, alors ça c'est pas partagé par toutes les chrétientés, mais nous le croyons, non pas que nous soyons littéralistes, hein, ça c'est encore autre chose, mais nous croyons que la Bible peut se laisser sonder comme une parole d'autorité authentique venant de Dieu. Alors, je vous invite tous et les baptisés d'aujourd'hui, sondons la parole. Sondons comme les Béréens l'ont fait, et particulièrement au sujet de ces trois doctrines chrétiennes, soutenues dans le baptême biblique. Nous serons ainsi armés pour les temps à venir. J'aimerais terminer par le symbole des apôtres, qui est très peu connu, et c'est dommage parce que dans d'autres églises, on l'utilise souvent. Et j'aimerais le rappeler ce matin parce qu'il est partagé par toute la chrétienté. Toute la chrétienté. Le symbole, vous savez, symbole, ça veut dire, c'est un discours qui renvoie à une réalité. Et cette réalité, c'est le symbole des apôtres. Et je vous invite peut-être à le lire en même temps qu'il va s'afficher. Et c'est une déclaration de foi des chrétiens. Et je pense que ces déclarations de foi, il faut qu'on la connaisse bien, parce que c'est le fondement de notre foi, qui aujourd'hui est attaquée, qui aujourd'hui est malmenée, qui aujourd'hui est déformée. Et si nous ne restons pas sur ce fondement, eh bien, nous ne pourrons pas tenir sur le roc. Le roc, c'est la maison, sur le roc, c'est celle qui écoute et pratique la parole. Et pour la pratiquer correctement, il faut la comprendre correctement. Je vous invite, si vous le voulez, à et déclarer ce symbole avec moi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux et il siège à la droite de Dieu. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, et à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Voilà, que ce soit pour nous ce fondement inébranlable dont le Père, le Fils et l'Esprit, qui tous les trois manifestent l'amour envers nous. Je laisse la place maintenant à Aurélie, qui va donner son témoignage avant de passer par les eaux du baptême.
Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie Estève, donc je suis la fille de Laurence Caron et de Nicolas Estève. Donc, mes parents, ils sont séparés quand j'avais 4 ans. Donc, mon père et ma mère, ils ont eu mon frère Alexandre, que vous devez sûrement connaître, et moi-même. Donc, ma mère, elle s'est remariée avec un Hollandais, donc René, qui avait déjà 3 enfants, mais qui vivent en Hollande. Et mon père, il s'est marié avec Cécile, qui avait déjà 3 enfants. Donc, il y a Alice, qui a mon âge, Camille, qui a l'âge d'Alexandre, et Clément, qui a 14 ans. Et ensemble, ils ont eu Valentin. Donc, c'est un peu le petit être qui a uni notre famille. Et donc, j'ai vraiment la chance d'avoir 2 familles incroyables et super aimantes. Et mes parents, déjà, ils habitent dans la même ville. Et ils habitent à 2 rues. Et donc, je suis en garde alternée. Donc, je vis une semaine sur l'autre. Donc, voilà. Et c'est trop, trop bien. Ils ont toujours cherché notre bonheur. Le problème, enfin c'est pas vraiment un problème, hein, mais c'est que, enfin dans mes 2 familles, donc chez ma mère on est protestant et chez mon père donc ils sont athées et donc c'est parfois difficile parce que quand on est enfant souvent on reproduit ce que pensent nos parents, mais quand c'est 2 familles différentes, bah c'est un peu dur de savoir où on en est quoi. Donc ce qui est bien c'est que chez ma mère bah on était, enfin on est que 4 et chez mon père du coup on est 8. Donc c'est un bon équilibre parce que bah, chez ma mère j'ai des temps un peu toute seule et chez mon père c'est un peu comme une colo, donc c'est trop trop bien. Donc voilà, donc j'ai commencé à aller à l'église quand j'avais 4 ans avec ma mère du coup. Donc voilà, j'ai grandi à l'église et j'entendais tout ce qu'on disait, mais je crois pas que j'étais vraiment croyante à ce moment-là. Donc j'entendais que Dieu il était bon, mais j'y croyais pas vraiment en fait. Et en fait j'ai toujours voulu croire en Dieu. Même si j'avais du mal, quoi. En fait, je comprenais pas comment un Dieu, il pouvait comme ça là avoir créé tout le monde, enfin la nature, les animaux, et je trouvais ça un peu utopique en fait. Et pour moi, c'était un peu invraisemblable, quoi. En fait, moi, mon raisonnement c'était ok. Donc à l'école, on apprend les dieux grecs et tout ça, et je sais qu'ils n'existent pas. Donc pourquoi mon Dieu à moi il existerait ? Donc en fait, c'était ça mon raisonnement, et c'est pour ça que je croyais pas. Donc j'entendais encore une fois à l'église, Dieu est bon, il pardonne nos péchés et tout et tout. Souvent on disait oui, Dieu c'est comme ton père et tout ça, mais pour moi non, j'avais qu'un père, il est physique, je peux lui faire des câlins, donc pourquoi vous venez me parler d'un père quoi. Donc la vie elle continuait, puis je grandissais et tout ça. Mais je pensais quand même souvent à Dieu quoi. J'avais envie de comprendre et de saisir la portée de son amour, même si je comprenais rien en fait. Et en fait, c'est parce que je sentais rien, parce que je voyais rien, je voyais pas de miracle. C'est pour ça que je croyais pas. Voilà. Et souvent chez mon père, on a souvent des débats et c'est trop trop bien. Et on parlait beaucoup de religion. Dans ces moments-là, je savais pas trop où me mettre. Et je laissais toujours mon frère parler. Moi, je me taisais et je disais rien. Et il me disait, mais pareil, quand je parle avec des amis qui sont pas chrétiens, il me disait, mais oui, mais si Dieu existe, pourquoi il y a toutes ces guerres? Pourquoi il y a toutes ces maladies et tout ça? Enfin, Dieu, il est bien beau, votre Dieu, mais il fait rien, quoi. Et moi, dans ces moments-là, j'étais OK. Donc, tout ce que j'avais entendu, en fait, eh ben, tout s'évaporait. Je me sentais super mal, en fait. J'avais besoin d'avoir un Dieu, mais en même temps, enfin, je pouvais pas y croire, quoi. Et puis, c'est vrai que quand on n'est pas chrétien, bah, c'est légitime de se poser toutes ces questions-là. Donc, voilà. Donc, ensuite, je suis rentrée en 6e. Et donc, j'étais dans cette optique-là de chercher Dieu. Et en 6e, bah, j'ai eu une super classe avec des super amis. C'était trop, trop, trop bien. On était un groupe trop, trop bien. Et le problème, c'est qu'ils faisaient tous allemand en première langue et moi, je faisais anglais. Donc, de la 5e jusqu'à la 3e, j'avais aucun ami dans ma classe. C'était dur parce que eux, ils étaient tous ensemble et moi, bah, j'étais toute seule, quoi. Et en plus, j'étais assez timide et j'avais du mal à aller vers les autres. Donc, c'était un peu dur. En 4e, j'ai passé la pire année de ma vie. J'avais 2 amis dans ma classe. En fait, je sentais qu'on n'avait pas les mêmes valeurs et on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt. Un jour, pour une histoire vraiment, vraiment bête, on s'est disputé et je suis rentrée en pleurant le soir. Je sais pas si vous savez ce que c'est Snapchat. En fait, c'est un réseau social où on a des amis et on peut poster des stories. C'est-à-dire que tous nos contacts, tous nos amis, eh ben ils peuvent voir la photo qu'on va poster. Moi, je fais un beau petit selfie et je mets marre des faux culs. Et sur le moment, je trouvais ça très stylé. Je me dis waouh. Le problème, c'est que faut jamais s'exprimer sur les réseaux sociaux quand on est en colère ou quand on est triste. Et donc le lendemain, je retourne en classe et les deux filles, elles viennent me voir, elles me font alors, hein, c'est qui les faux qui? Et moi, toute tremblante, je me dis, ok, donc tu assumes, tu dis. Et j'ai dit, en fait, c'est vous. Et là, elles me regardent, elles me font, oh, tu t'en rends compte que maintenant, tu sais, à l'école, t'as peut-être 20 de moyenne, mais en amitié, t'as 0, hein. Et là, cette phrase, elle est restée gravée, en fait. Et même quand j'en parle maintenant, ça me fait un peu de la peine, quoi. Et enfin, c'était dur, quoi. Et toute l'année, après, elles ont continué à parler un peu dans mon dos. Et du coup, j'avais pas d'amis. En plus, mes amis, ils étaient même pas dans le même couloir. On n'avait pas le même emploi du temps. Et donc, voilà. Donc, et puis, donc j'étais un peu dans cette optique-là, chercher Dieu. Et je me disais, ok, donc si Dieu t'existe, pourquoi je me sens si mal? Pourquoi y a tout ça qui se passe, quoi? Et du coup, l'année de la troisième, du coup, j'ai prié. Je me suis dit, bon, t'as rien à perdre, tu vas prier. Et je me suis dit, ok, Seigneur, s'il te plaît, fais qu'il y ait des amis dans ma classe. Et Dieu a entendu mes prières. Et donc, il y avait Priscilla qui est déjà venue ici. Et donc, elle était dans ma classe. Et j'ai passé une super année. Et depuis la troisième, j'ai toujours des amis incroyables dans ma classe. Et c'est trop, trop bien, quoi. Ensuite, en seconde, pareil. Donc, c'était trop, trop bien. Et à partir de la troisième aussi, j'ai oublié de préciser que j'ai commencé à faire des sessions à l'église. Donc une session, c'est on reste une semaine à l'église, c'est un peu comme une sorte de colo chrétienne. Donc on a des moments de louange, de partage, de jeu et tout ça, et c'est animé par MCA. Donc MCA, c'est une école qui forme des disciples de Dieu. Et donc ils viennent tous les ans pendant les vacances de février, et ils viennent. Et pour la première fois en troisième, j'ai rencontré Dieu. En fait, on était en pleine louange et je priais et tout ça. Et il y a Roxane Dufour qui prie pour moi. Et pendant qu'elle priait, j'ai senti une paix énorme sur moi. Et j'ai commencé à pleurer et je pouvais plus m'arrêter. Et je me dis, ok Seigneur, donc là je ressens un truc, donc ça veut dire que tu existes. Et à ce moment-là, j'ai dit que je voulais suivre Jésus, quoi. Et pendant les autres louanges, j'avais envie de danser pour Dieu. En fait, je vous ai pas dit, mais la danse, c'est un truc vraiment incroyable pour moi et je danse depuis que je suis tout petite. Et quand je vais pas bien chez moi, je danse et hop, ça va mieux. Et donc, j'avais cette idée de danser pour Dieu. Mais à chaque fois que je voulais danser, déjà, j'avais super peur du regard des autres. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Normalement, la louange, on doit chanter et c'est tout, quoi. Mais non. Et donc, j'arrivais à bouger mes jambes et tout ça, mais j'avais les bras super lourds, comme si mes mains, j'avais du plâtre, quoi, et je pouvais pas danser. Donc après, la session, elle s'est terminée et vite, le quotidien, il reprend le dessus. On oublie de prier et tout ça. Donc voilà. Et du coup, j'avais hâte de faire la session en seconde. Et donc, en seconde, repelote, c'était trop, trop bien. Et c'est cette année-là que je me suis dit que je voulais me faire baptiser. Donc pendant les vacances, j'ai fait la préparation de baptême. Et donc, c'était juste trop, trop bien. Et j'ai pris conscience, en fait, que Dieu, il était là et qu'il nous soutenait dans la vie. Et en 2019, donc c'était début d'année de première, j'avais enfin l'âge pour faire Loco. Donc Loco, c'est un grand rassemblement des jeunes du réseau RNC, donc c'est les églises protestantes évangéliques. Et en fait, pendant un week-end, c'est pareil, là, il y a des moments de louange et tout, et c'est trop, trop bien. Et Dieu s'est approché de moi d'une façon que je n'oublierai jamais. Donc avant le confinement, en fait, dans cette salle, il y avait pas les chaises, et du coup pendant les louanges, on pouvait danser et tout, et j'avais pris l'habitude de pas avoir de chaises et d'avoir de l'espace. Et du coup pendant la louange à Loco, je suis allée au fond parce qu'il y avait de l'espace et tout, et j'étais bien au fond, personne pouvait me voir et tout. Il y a un des MC, donc c'est un des étudiants de MCA qui s'approche de moi, mais je le connaissais pas. Il me dit, tu veux pas t'approcher? Je fais non. Donc je suis restée au fond. Et pendant la louange, je sais pas ce qui m'a appris, mais je me suis approchée et je suis allée devant, alors que jamais j'aurais fait ça, quoi. Et je dis, ok Seigneur, j'ai envie de danser pour toi. Et là, je sens une puissance énorme sur moi, et mes bras qui étaient super lourds, ils sont super légers, et je commence à danser et avoir des mouvements qui viennent. Mais c'est pas des mouvements que moi j'aurais fait en temps normal, c'est vraiment des mouvements, je sais pas d'où ils sortaient, quoi. Et je commence à danser et je pouvais plus m'arrêter et je commence encore une fois à pleurer. Je sais, je pleure beaucoup, mais je commence à pleurer encore une fois et j'étais sans voix, quoi. Et je sentais le Saint-Esprit posé sur moi. Et le lendemain, donc il y avait une autre louange Et la dame, elle disait qu'il priait, oui, si vous sentez que vous avez brisé une relation avec Dieu ou avec quelqu'un d'autre, avancez-vous. Et là, on devait être une centaine à s'être approchés. Je m'approche et elle fait maintenant prier avec votre personne à droite. Je me tourne à droite, il y avait personne à ma droite. Et il y a une fille qui s'approche, elle me fait « Je peux prier pour toi ?» Je lui fais « Ouais, vas-y. » Et donc en fait, elle était jeune, donc elle avait mon âge, elle s'appelait Marion. Et elle commence à prier pour moi. Elle me fait « Tiens, c'est bizarre, j'ai l'image d'un mur. Est-ce que ça te parle, le mur ?» Et là, je commence à pleurer encore une fois parce que tous les soirs, depuis que je suis petite, je prie dans ma chambre le soir. Et donc, je me tourne du côté de mon mur et j'ai toujours l'impression qu'il n'y a personne qui m'entend. Et j'avais vraiment dans ma vie cette image de mur, en fait. Et là, la fille que je connais pas, elle vient de me parler de mur. Elle me dit « Dieu a brisé ce mur. » Enfin, maintenant, il t'a toujours entendu. Et c'était incroyable. Et pendant cette période, il y a l'obéissance envers Dieu qui me travaillait. J'avais envie de faire ce qu'il y a écrit dans la Bible, d'être une bonne personne, quoi. Et la fille, elle commence à me dire « Ma fille, sois obéissante, ma fille. » Alors que je la connais pas. Et après, du coup, la louange, je vais la voir, on commence à parler. Et donc, elle avait 17 ans et elle aimait la danse comme moi. Et je trouvais ça incroyable que Dieu me parle à travers des gens qui me ressemblent, qui ont mon âge, qui ont envie de danser et tout. Et le lendemain, je la vois qui danse pour Dieu pendant la louange. Et je me dis, waouh, c'est ce que j'ai envie de faire. Et c'est grâce à elle, en fait, que j'ai pu danser, en fait, maintenant. Et enfin, c'est fou, quoi. Et ensuite, donc toujours l'année dernière en première, il y avait encore en février la session de MCA. Le problème, c'est que ça tombait sur les vacances où j'étais chez mon père et je pouvais pas y aller parce qu'on était censé aller au ski. Et en plus, j'aime pas trop le ski, donc j'étais un petit peu triste de ne pas pouvoir y aller. Et j'ai prié, je dis Seigneur, j'ai vraiment envie d'y aller parce que je sais qu'à chaque fois je vis des choses incroyables. Et merci Seigneur, j'ai pu y aller. Et en fait, je vivais tellement un truc incroyable que je pouvais pas garder ça pour moi. Et je voulais que deux amies, donc Priscilla et Elise, elles viennent. Et donc, c'était compliqué parce qu'au début, elles pouvaient pas venir. Et donc, j'ai beaucoup prié pour qu'elles viennent. Et au final, elles sont venues. Et donc, on a passé toute la semaine ensemble. C'était vraiment bien. Et avec Nathanaël aussi, on parlait du parler en langue. Donc en fait, le parler en langue, c'est une langue qui permet de glorifier Dieu à travers des sons et des syllabes qui sont pas compréhensibles. C'est comme si c'était l'Esprit de Dieu qui parle à travers nous, mais nous, notre intelligence, elle est totalement stérile et on comprend pas ce qu'on dit. Et pour moi, c'était un truc d'adulte. Il y avait que les adultes qui pouvaient parler en langue. Et pour moi, c'était un truc totalement surnaturel. Et je vois Nat qui me parle de ça et je dis « Ok ». Et pendant une louange, j'ai commencé à prier pour moi et... voilà. Et je sens un truc dans ma bouche qui fait blah. Et là, il y a des sons et je commence à dire des trucs que je comprends pas. Et je me dis, waouh, c'est ça, parler en langue et tout. Et j'étais contente, je me dis, waouh, merci Seigneur, je peux parler en langue. Et en fait, quand on est humain, c'est dur de croire à des choses un peu surnaturelles. Enfin, c'est pas compatible avec notre intelligence. Et c'est vraiment par la foi qu'on peut réaliser et comprendre ce qui arrive. Donc comme je l'accepte maintenant, je sais que c'est Dieu en fait qui m'aide à faire ça quoi. Et puis après il y a eu d'autres louanges et je commençais aussi à danser sans m'arrêter. Et donc on était là et je m'en souviens il y avait les encadrants qui priaient et qui disaient ok vous savez que Dieu peut vous libérer de vos chaînes, il peut totalement vous guérir quoi. Et moi j'étais là et je me suis accroupie, je sais pas pourquoi, et je commence à faire ça avec mes mains là, comme si j'enlevais mes chaînes. Et à la seconde près, Florence arrive, elle me dit « Dieu t'a libéré de tes chaînes ». Alors qu'elle m'avait pas vue, enfin elle savait pas que je faisais ça, elle m'avait pas vue et tout. Et à la fin, je vais la voir et elle me dit « Oui, toute la prière, enfin pendant toute la louange, j'avais envie de venir te voir, mais j'attendais que Dieu me donne le bon moment pour venir te voir ». Et donc elle est venue au bon moment et pile à ce moment-là où j'en avais besoin. Et enfin, c'était fou. Enfin, je me dis, comment Dieu, il peut être aussi parfait dans le temps, quoi. Enfin, et en fait, tous ces moments-là où je croyais pas en Dieu, et ben Dieu, il venait pas vers moi parce que moi, j'avais pas envie qu'il vienne, en fait. Et c'est à partir du moment où nous, on fait la démarche de vouloir croire en Dieu, que il va se passer des trucs, quoi. Et il y a quelques semaines encore, je pouvais pas aller à l'église parce que, enfin, j'ai déjà, c'était un peu compliqué, c'est début d'année, j'ai eu le coronavirus, enfin, c'était très compliqué et je pouvais pas venir à l'église. Mais j'ai quand même suivi le culte de la porte ouverte, donc c'est une autre église en direct, et j'avais la maison pour moi toute seule chez ma mère, donc ça, c'était bien, j'ai mis sur la télé et tout. Et je commence à danser encore une fois, et pareil, j'étais en train de penser justement à ce moment-là, et je fais encore ce mouvement-là dans les chaînes, et à la seconde près, dans la louange, j'ai dit « tu brises mes chaînes », alors que je connaissais pas la musique, donc mon inconscient ne pouvait pas avoir préparé mes mains à avoir fait ce geste, parce que je connaissais pas la musique, et je me dis « waouh, petit clin d'œil de Dieu, incroyable, incroyable quoi ». Et Dieu, ce qu'il a posé sur nos vies, il sera toujours présent en fait. Et du coup, je sens qu'il y a une confiance en moi nouvelle qui se développe. Et maintenant, quand on parle de religion chez mon père, bah, je laisse plus les autres parler à ma place et je dis ce que je pense, ou même avec mes amis et tout. Et ça, c'est incroyable. Et j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir deux familles aimantes et de surtout avoir pu être dans cette église. Et j'ai appris plein de choses, quoi. Et un jour, je parlais avec une amie et elle me disait que tout ce qu'on faisait, ça devait honorer Dieu. Et moi, j'ai toujours voulu être un peu une bonne personne. J'aime pas parler dans le dos des autres. J'aime pas dire des choses méchantes. Et souvent, on m'a un peu fait ce reproche-là de me dire « Ouais, mais tu t'exprimes pas assez, nanani, nanana. » Et en fait, être un bon chrétien, entre guillemets, c'est pas juste dire des choses gentilles et tout ça, mais c'est vraiment parce qu'on appartient au peuple de Dieu, en fait, qu'on a envie de faire les choses bien. Et c'est ce que j'ai envie de m'engager à faire, en fait, en prenant le baptême. Et tous les jours, bah, c'est un combat. Et il faut sans cesse lutter contre toutes ces pensées qui viennent nous rabaisser, qui viennent rabaisser la puissance de Dieu. Et en écrivant ce témoignage, je me suis rappelée d'un truc, c'est que tous les soirs, quand j'étais petite, c'est que je voulais prier, j'avais le diable dans ma tête. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je priais, vous voyez la pub de Charles, là, avant, quand il y avait les anges et les démons qui dansaient ensemble autour d'un bon petit repas et tout, et ben moi, j'avais toujours cette image du diable rouge. Et ça me terrorisait et j'avais toujours des pensées très qui faisaient peur, quoi, un peu film d'horreur. Et j'en ai parlé à René et à maman et ils ont prié pour moi. Et du jour au lendemain, toutes ces images sont parties. Et c'est un truc que j'avais oublié. Et je me dis, mais même quand j'étais petite, Dieu, il veillait sur moi. Et quand j'ai réalisé ça, j'étais waouh. Et Dieu, il est tellement bon, en fait. Il a une patience infinie. Et c'est quelque chose qu'on a beau répéter tous les dimanches, mais c'est tellement vrai. Enfin, on n'a qu'à lire la Bible pour voir la grandeur de Dieu, quoi. Et depuis que je lis la Bible, je me rends compte. Enfin, j'apprends un peu à connaître le caractère de Dieu. Et enfin, c'est incroyable tout ce qu'on apprend. Donc vraiment, lisez votre Bible. Et être chrétien, c'est pas vivre dans un monde de bisounours. Mais au contraire, c'est vivre à contre-courant de notre société. Enfin, on voit bien, il y a des attentats en ce moment. Enfin. Être chrétien, c'est pas juste aller à l'église, donner des offrandes et tout, c'est toute notre vie qui est chamboulée. Et c'est tellement plus simple de faire comme tout le monde, de rire de l'élève un peu spécial au fond de la classe ou des profs. C'est tellement plus dur d'être gentil, d'aller voir nos ennemis et de leur demander pas, enfin, d'accepter et de les pardonner, quoi. Et être chrétien, c'est pas chercher à faire ce que les hommes aimeraient qu'on fasse, mais c'est chercher à faire ce que Dieu aimerait que nous, on fasse. Et voilà quoi, je suis partie d'une petite fille très timide, je faisais mes coloriages au fond de l'église et maintenant je suis capable de parler devant vous. Je suis même déléguée de ma classe pour vous dire. Et je m'attends en fait à ce que Dieu me révèle encore plein de choses. Et en fait, c'est en faisant ce baptême que je veux dire publiquement que j'ai envie de suivre Jésus, quoi. Et je sais que mes péchés sont pardonnés, je sais que Dieu est mort pour moi à la croix. Et maintenant, j'ai la conviction que tous les jours de ma vie, il y aura le Saint-Esprit qui sera avec moi. Et qui va me guider, en fait. C'est ça, le baptême, c'est un engagement total envers Dieu. Voilà.
Vous savez, il y en a qui disaient que la religion est une affaire de femmelettes. Est-ce que vous croyez que c'est une femmelette? Non, mais... C'est important de voir un témoignage de foi. Hein. Il faut pas être une femmelette, il faut avoir une conviction qu'on défend. Et Aurélie est capable de défendre cette conviction parce que c'est une relation avec quelqu'un qui est vivant. Amen. Et elle a fait l'expérience de quelqu'un qui est vivant, Jésus, qu'elle rencontre et qui est maintenant elle veut rencontrer sur une base régulière. Je voudrais juste préciser, pour ceux qui voilà découvrent un peu le parler en langue, on le trouve dans les Actes des apôtres au moment de la Pentecôte, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, c'est Acte 2, il est dit qu'au bruit qui se produisit, il y a eu un bruit énorme qui s'est produit, la multitude a couru et fut bouleversée, parce qu'il y avait des milliers de personnes à ce moment-là pour cette fête à Jérusalem. Et parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration. Ils disaient, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens ? Et c'est vrai que les disciples n'avaient pas d'éducation. Paul en avait une énorme, mais pas les disciples. Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisines de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétoises et arabes. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Amen. Et je suis content qu'Aurélie ait fait cette expérience du parler en langue, parce que ça permet de s'édifier soi-même, de s'édifier. Et non seulement déjà on sent en elle cette assurance, mais elle va prendre de plus en plus d'ampleur quand on continue à parler en langue au Seigneur, hein, dans ton intimité. Mais le mur, il est brisé maintenant, mais le Seigneur est là. Et l'apôtre dit, je parle plus en langue que vous tous, mais on le fait pas en public, on le fait en privé, parce qu'il nous édifie. Il édifie notre foi, il édifie notre esprit, il édifie. Donc je vous encourage, ceux qui sont dans la salle, ils sont chrétiens aussi, continuez à parler en langue, parce que on glorifie le Seigneur. Hein, et parfois, c'est traduit, et on peut dire des choses prophétiques de manière extraordinaire. Le Seigneur est là, vous avez entendu que c'est le Saint-Esprit qui est avec elle, et le Seigneur est avec elle comme elle est avec Élodie. Élodie va donner aussi son témoignage, et je vais les baptiser sur le témoignage de leur foi qu'ils ont donné. Élodie, tu viens.
Bonjour à tous. Je voudrais vous dire ce que Dieu a fait pour moi. Il m'a ramené à lui. Dans mon enfance, j'ai eu diverses manifestations d'ordre spirituel qui ne venaient pas de Dieu, tels que des cauchemars, de démons, des ombres noires qui m'empêchaient de dormir. Je criais la nuit, je n'arrivais pas à dormir. Des ombres sombres qui se ressentaient par des chaleurs qui se déposaient sous certaines parties de mon corps, des lumières pendant la nuit apparaissaient devant la chambre. Certains soirs, il y avait des présences qui montaient sur mon lit, mais j'arrivais à m'endormir, et puis ma mère priait beaucoup pour moi. Je suis à la base de religion catholique, toute ma famille. On est pratiquant catholique, on prie, on va à l'église, j'ai fait tous les sacrements, et ça me suffisait. Donc par rapport à ça, en priant avec ma famille, avec ma mère, j'ai pu surmonter ces mauvaises expériences, et ma croyance en Dieu s'est affermie. J'avais avancé, j'avais grandi, en gardant dans mon esprit qu'il était toujours à mes côtés et qu'il me protégeait. Mais je me suis malheureusement éloigné des commandements de sa parole à cause de mon incompréhension de la Bible et de bien d'autres événements qui se sont produits dans mon adolescence et dans mon enfance. Dans mon enfance, je me suis laissé séduire par le monde. J'ai laissé grandir en moi des sentiments qui étaient mauvais. J'ai pris des chemins malsains. Le temps est passé. Dieu m'a sorti de ces ténèbres. Il m'a mis en lumière. Il a voulu que je vive une meilleure vie que celle dans laquelle je me complaisais. Il m'a réconcilié avec ma mère. Et comme mon père est mort, Dieu m'a consolé, oui, parce que j'avais beaucoup de chagrin, je faisais des crises d'angoisse et je supporte, du moins la plupart du temps, je voulais rester toujours toute seule. Je l'ai laissé me remplir de sa présence afin d'aller de l'avant et de ne pas me laisser abattre par l'adversité. Le Saint-Esprit, oh Dieu, y a abattu des forteresses dans mon corps, telles que la colère, l'amertume, la solitude, la rancune, l'orgueil, le ressentiment, le manque de parole avec ma mère et ma famille, la rébellion, le repli sur soi, le manque de tolérance, le manque d'amour pour moi-même, le manque de considération de ma famille et de mon entourage, le manque de confiance en moi. Dieu m'a fait comprendre l'importance d'une famille grâce à la naissance de mon fils, l'importance d'être entouré d'une famille, de connaître sa famille, et malgré les hauts et les bas, malgré les différents caractères, malgré les différents points de vue, une famille c'est important, et même si on a des soucis, ils sont pas d'accord sur certaines décisions que l'on va prendre, c'est toujours important d'avoir une famille, de savoir qu'ils sont là. Donc je voulais que mon fils connaisse ma famille, donc je suis retournée vers ma famille pour qu'il puisse connaître ma famille. Voilà. Quels que soient les problèmes et les mésententes qu'il pouvait s'y trouver, il m'a libérée de la mort, de l'esprit de dépression, de l'insécurité, de l'inconstance, de la folie, de la violence, de la tourmente, de l'autodestruction, de la haine. Il m'a fait comprendre que je suis aimée de lui, malgré tous mes péchés et mes défauts, que je ne pourrais trouver cet amour auprès de personne d'autre que lui. C'est pour cela que le sacrifice de Jésus à la croix est le témoignage de Dieu, que Dieu nous donne, me donne de lui, de son amour pour moi. Ma repentance est le témoignage que je veux donner. Je reconnais que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qu'il est venu pour me sauver, pour m'annoncer la bonne nouvelle. Comme le site dans Actes 17, verset 30-31, car sans la repentance, il est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Marc 1, verset 4-5, et Hébreux 6, verset 1. Parce que je fais confiance à Jésus, je décide par la foi que je m'aime Dieu de lui donner ma vie aujourd'hui. Acte 4, verset 12 et Jean 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen.
Voilà, alors tout à l'heure, vous avez vu le film où Jésus a été baptisé. Alors, on n'a pas le Jourdain ici, mais on a un baptistère qui est là derrière. Habituellement, on vous permet de s'approcher, mais avec le Covid, on vous demande de rester à votre place. Vous pouvez vous lever dans le fond si vous voulez voir un peu plus. Mais de toute façon, le baptistère est là. Je vais plonger en demandant l'acte de foi au préalable. Et sur leur déclaration de foi, je les baptise. Et ensuite, après, ils vont se lever. Donc, ils vont complètement être plongés dans l'eau. Revenir devant, et ensuite après ils vont être là et on va prier pour eux, et les parents, enfin ceux qui, les parents directs qui veulent venir prier à la sortie, parce qu'il y a aussi le groupe de louanges qui va venir, vous pouvez déjà vous mettre en place pour chanter un chant qui voilà a été choisi par chaque baptisé, qu'on va chanter. Et ensuite, nous, pendant qu'ils chantent, on prie pour eux et on demande au Saint-Esprit de venir encore sur les baptisés à la sortie, parce que ils vont manifester leur nouvelle vie en Jésus-Christ et l'entrée officielle dans l'Église universelle de Jésus-Christ. Voilà, je demande à Aurélie de venir. Je vais commencer par elle. Et puis, on va procéder donc maintenant à la cérémonie du baptême. Donc, n'hésitez pas à vous lever si vous voulez pour voir. Elle va se faire baptiser. Voilà, alors je vais te poser la question avant de baptiser. Est-ce que tu crois en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre?
Oui.
Est-ce que tu crois en Jésus, son Fils bien-aimé, qui est mort à la croix pour tes péchés et qui t'a sauvé?
Oui.
Est-ce que tu crois au Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu, qui vient pour être avec toi tous les jours jusqu'à la fin?
Oui.
Est-ce que tu veux prendre la décision de renoncer à tout ce qui n'est pas bien, que Satan ou que le monde te pousse à faire en comptant sur la grâce du Seigneur et en priant pour que tu puisses tenir dans la foi?
Oui.
Eh bien, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aurélie est entrée dans la famille spirituelle et se réjouit qu'on puisse vivre ensemble des moments super. Voilà, vas-y, tu as Élodie avec nous, son tour de passer par les eaux du baptême. Donc, vous voyez, cette eau représente la mort en ancienne vie, et en sortant, c'est la résurrection, la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et ce que l'on a fait, nous, c'est qu'on a fermé pour qu'il n'y ait pas de virus. Mais sinon, elle n'est pas bénie, hein, elle est belle. Hein. C'est l'eau de la mort. Elle est très grande, il y en a qui risquent de se cogner la tête. Mais voilà. Ah, bonsoir. Elle nage là, elle nage. Vous ne la voyez pas? Voilà. Eh bien, je vais lui reposer la question pour que ce soit officiel devant tous ceux qui sont réunis de l'Église. Les questions de foi fondamentales. Élodie, est-ce que tu crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la mer?
Oui, je crois.
Est-ce que tu crois en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qui est mort à la croix pour tes propres péchés et qui est ressuscité d'entre les morts?
Oui, je crois.
Est-ce que tu crois en son Saint-Esprit, qui est la puissance qu'il te donne pour vivre ta foi, vivre en tant que chrétien dans ce monde et garder la foi?
Oui, je crois.
Est-ce que tu veux prendre la décision, avec son secours et sa grâce, de renoncer à tout ce qui n'est pas conforme à sa parole pour résister à l'ennemi? Parce que la Bible dit que résister à l'ennemi, il fuira loin de vous. Et si tu résistes, tu auras la victoire. Est-ce que tu le veux?
Oui, je le veux.
Eh bien, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Thank you.